Ralph et sa femme étaient assis à la table de la cuisine, l'ordinateur de Gianni ouvert devant eux. Il y avait 4 grandes chaînes de télé à Flint City, affiliées aux networks nationaux, plus Channel 81, la chaîne publique qui diffusait des informations locales, retransmettait les réunions du conseil municipal et diverses manifestations qui se déroulaient dans les environs. Comme l'intervention de Harlan Coben, au cours de laquelle Terry était apparu en guest star inattendu. Toutes les 5 étaient présentes devant le tribunal pour la lecture de l'acte d'accusation de Terry. Toutes les 5 avaient filmé la fusillade, en faisant des gros plans sur la foule. Évidemment, dès que le premier coup de feu avait éclaté, toutes les caméras s'étaient braquées sur Terry, le visage à moitié ensanglanté, écartant sa femme de la ligne de tir avant de s'écrouler sur le trottoir, frappé d'une balle mortelle. Les images de CBS devenaient noires avant cet instant fatidique, car le premier tir de Ralph avait pulvérisé leur caméra et blessé le caméraman à l'œil. Quand ils eurent visionné chaque séquence 2 fois, Gianni se tourna vers son mari, les lèvres pincées. Elle ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Repasse les images de Channel 81, demanda Ralph. Leur caméra s'est affolée dès que la fusillade a débuté, mais elle a capté les meilleurs plans de foule juste avant.
Ralph, dit Gianni en lui touchant le bras. Tu es sûr que...
Oui, tout va bien, dit-il. Il mentait. Il avait l'impression que le monde vacillait et qu'il allait bientôt basculer dans le vide. Repasse les images, s'il te plaît, sans le son. Le commentaire incessant du journaliste m'empêche de me concentrer. Son épouse s'exécuta et ils regardèrent les images ensemble. Des gens qui agitaient les bras, qui criaient sans émettre de son. Leur bouche qui s'ouvrait et se fermait comme des poissons hors de l'eau. À un moment donné, la caméra effectuait un rapide travelling latéral et de haut en bas, trop tard pour saisir l'homme qui avait craché au visage de Terry, mais à temps pour montrer Ralph qui le faisait trébucher en donnant l'impression qu'il s'agissait d'un geste accidentel. Il regarda Terry aider le cracheur à se relever. Une scène tout droit sortie de la Bible, avait-il pensé à cet instant. Puis la caméra revenait sur la foule. Il vit les 2 huissiers, l'homme grassouillet, la femme rachitique, s'efforcer de dégager les marches du palais de justice. Il vit la présentatrice blonde de Channel 7 se relever en examinant d'un air incrédule ses doigts ensanglantés. Il vit Holly Peterson avec son sac de toile et son bonnet d'où dépassaient quelques mèches de cheveux roux. Dans quelques secondes, Holly deviendrait la vedette du spectacle. Il vit le garçon au bec de lièvre. Le caméraman de Channel 81 qui s'immobilisait le temps de filmer le visage de Frank Peterson sur le t-shirt de l'adolescent, avant de poursuivre son panoramique. « Stop !» ordonna Ralph. « Arrête-toi là !» Gianni obéit. Ils regardèrent l'image, légèrement floue à cause du mouvement rapide du caméraman qui tentait de tout enregistrer. Ralph tapota l'écran. « Tu vois ce type qui agite son chapeau de cow-boy ?»«
Oui ?»
Le brûlé se trouvait juste à côté.
« Si tu le dis, » concéda Gianni d'un ton étrange, teinté d'une nervosité qu'il ne lui connaissait pas.
« Je te jure qu'il était là, je l'ai vu. C'était comme si je faisais un trip au LSD, à la mescaline ou un truc dans le genre. Je voyais tout. Repasse les autres images. Celle-ci offre les meilleurs plans de foule, mais celle de Fox n'était pas trop mal et... »
« Non !»
Gianni appuya sur le bouton arrêt et referma l'ordinateur.
« L'homme que tu as vu n'apparaît sur aucune de ces images, Ralph. Tu le sais aussi bien que moi. »
Tu crois que je suis fou? Tu crois que je fais une... Tu m'as compris?
Une dépression?
Gianni avait posé la main sur son bras, de nouveau, et elle le pinça affectueusement.
Non, bien sûr que non. Si tu affirmes l'avoir vu, c'est que tu l'as vu. Si tu penses qu'il portait cette chemise sur la tête, pour se protéger du soleil ou pour se donner un genre, c'est sans doute vrai. Tu as eu un mois difficile, sans doute le plus dur de ta vie. Mais j'ai foi dans ton pouvoir d'observation. C'est juste que tu dois bien comprendre.
Elle laissa sa phrase en suspens. Ralph attendit. Enfin, elle poursuivit.
Il y a quelque chose de malsain dans tout ça. Et plus tu découvres de choses, plus ça empire. Ça m'effraie. Cette histoire que t'as racontée, Yunel, m'effraie. Ça ressemble à une histoire de vampire, non? J'ai lu Dracula quand j'étais au lycée. Et je me souviens notamment que les vampires ne se reflètent pas dans les miroirs. Et une chose qui n'a pas de reflet n'apparaîtra pas davantage sur des images filmées pour la télé.
Tu dis vague,
Les vampires n'existent pas plus que les fantômes, les sorcières ou... » Elle frappa sur la table du plat de la main. Un coup de pistolet qu'il fit sursauter. Le regard noir de Gianni lançait des éclairs.
« Réveille-toi, Ralph. Regarde la réalité en face. Terry Maitland se trouvait à deux endroits en même temps. Si tu cesses de chercher une explication et si tu acceptes... » »«
Je ne peux pas, ma chérie. Cela va à l'encontre de tout ce en quoi j'ai toujours cru. Si je commence à accepter ce genre de choses, c'est là que je deviendrai fou. »
« Bien sûr que non. Tu es plus fort que ça. Mais tu n'es pas obligé d'envisager cette hypothèse. Voilà ce que je veux te faire comprendre. Terry est mort. Tu peux tirer un trait sur tout ça.
Et si ce n'est pas Terry qui a tué Frankie Peterson, tu as pensé à Marcy et à ses filles. »
Jenny se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, au-dessus de l'évier, pour regarder dans le jardin de derrière. Elle serrait les poings.
Derek a encore téléphoné. Il veut toujours rentrer à la maison.
Que lui as-tu répondu?
De rester encore un peu jusqu'au milieu du mois prochain. Même si j'aimerais beaucoup le voir revenir à la maison. J'ai réussi à le convaincre finalement. Et tu sais pourquoi?
Elle se retourna vers son mari.
Parce que je ne veux pas le savoir ici, dans cette ville, pendant que tu continues à patauger dans cette sale histoire. Parce que j'aurais peur dès la nuit tombée. Imagine qu'il s'agisse réellement d'une créature surnaturelle, Ralph. Et si elle découvre que tu la cherches?
Ralph prit sa femme dans ses bras. Elle tremblait. Il pensa, une partie d'elle-même y croit pour de bon. Lionel m'a raconté cette histoire, mais il est persuadé que le meurtrier est un être humain, et moi aussi. Le visage plaqué contre le torse de son mari, Gianni demanda,
« Alors, pourquoi est-ce que l'homme au visage brûlé n'apparaît sur aucune image ?»
Je ne sais pas.
Je pense à Marcy, évidemment.
Elle leva les yeux, et Ralph vit qu'elle pleurait.
Et je pense à ses filles. Je pense à Terry aussi, et au Peterson. Mais je pense surtout à toi et à Derek. Vous êtes ce que j'ai de plus cher. Tu ne peux pas oublier toute cette affaire, aller au bout de ton congé, aller voir le psy et tourner la page.
Je ne sais pas, répondit Ralph. Mais en vérité, il savait. Seulement, il ne voulait pas l'avouer à Gianni, alors qu'elle se trouvait dans cet état étrange. Non, il ne se sentait pas capable de tourner la page. Pas encore.
4. Ce soir-là, assis à la table de pique-nique dans le jardin de derrière, Ralph fumait un cigarillo en contemplant le ciel. Il n'y avait pas d'étoiles, mais il distinguait la lune derrière les nuages qui s'accumulaient. La vérité ressemblait souvent à cela, pensait-il, un cercle de lumière blafarde derrière des nuages. Parfois elle parvenait à percer, parfois les nuages s'épaississaient et la lumière disparaissait totalement. Une seule chose était certaine. La nuit tombée, le personnage tuberculeux et décharné de la légende Yunel devenait plus plausible. Pas crédible. Ralph ne pourrait jamais croire à l'existence d'une telle créature, pas plus qu'il ne croyait au Père Noël. Mais il pouvait l'imaginer. Une version à la peau mate de Slenderman, ce croque-mitaine des jeunes américaines pubères. Grand et grave dans son costume noir, le visage semblable à une ampoule, transportant un sac suffisamment grand pour contenir un garçonnet ou une fillette, recroquevillée. D'après Yunel, le croque-mitaine mexicain prolongeait sa vie en buvant du sang d'enfants et en s'enduisant le corps de leur graisse. Et même si ça ne ressemblait pas exactement à ce qui était arrivé au petit Peterson, il existait des similitudes. Se pouvait-il que le meurtrier, Maitland peut-être, ou l'individu non identifié aux empreintes floues, croit réellement être un vampire ou autre créature surnaturelle? Jeffrey Dahmer n'était-il pas convaincu de créer des zombies en tuant tous ses sans-abri? Mais tout ceci n'explique pas pourquoi l'homme au visage brûlé n'apparaît pas sur les images des chaînes de télé.
Gianni l'appela. « Rentre, Ralph, il va pleuvoir. Tu peux fumer cette chose malodorante dans la cuisine si tu y tiens vraiment. »
« Ce n'est pas à cause de la pluie que tu veux me faire rentrer. Tu veux que je rentre car une partie de toi-même ne peut s'empêcher de penser que le croque-mitaine de Yunel rôde dans les parages,
juste derrière le halo de l'éclairage de jardin. Ridicule, évidemment, mais il compatissait avec l'inquiétude de sa femme. Il la ressentait lui aussi. Il repensait aux paroles de Gianni.
« Plus tu découvres de choses, plus ça empire. »
Ralph rentra dans la maison, éteignit son cigario sous l'eau du robinet, puis récupéra son téléphone en train de charger. Quand Howie répondit, Ralph demanda « Pouvez-vous venir ici demain avec Monsieur Pelé? J'ai un tas de choses à vous dire, dont certaines sont totalement incroyables. Je vous invite à déjeuner. J'irai acheter des sandwichs chez Rudy. » Howie accepta aussitôt. Ralph mit fin à la communication et aperçut Gianni sur le seuil, bras croisés.
« Tu ne peux donc pas tirer un trait ?»«
Non, ma chérie. Je suis désolé. » Elle soupira.
« Tu feras attention, au moins. »
« J'agirai avec la plus grande prudence. »
« Tu as intérêt, ou sinon tu auras affaire à moi. » « Et inutile d'aller acheter des sandwichs chez Rudy. Je vous préparerai quelque chose à manger. »
5. Le dimanche étant pluvieux, ils se réunirent autour de la table de la salle à manger des Anderson, qu'ils utilisaient rarement. Ralph, Gianni, Howie et Alec. Yunel Sablo se joignit à eux via Skype et l'ordinateur portable de l'avocat de chez lui à Cap City. Ralph commença par récapituler les éléments qu'il connaissait déjà, avant de donner la parole à Yunel, qui rapporta à Howie et Alec ce qu'il avait découvert dans la grange d'Elfman. Quand il eut fini, l'avocat déclara
« Tout cela n'a aucun sens. Nous sommes à des années-lumière de toute logique.
Cet individu dormait dans le grenier d'une grange abandonnée, » demanda Alec à Yunel. « Il s'y cachait. C'est ce que vous pensez ?»«
C'est l'hypothèse de départ. »
« Dans ce cas, il ne peut s'agir de Terry, » déclara Howie. « Il a passé toute la journée de samedi en ville. Le matin, il a emmené les filles à la piscine municipale et l'après-midi, il était au parc Estelle Barga pour préparer le terrain. En tant que coach de l'équipe qui recevait, c'était de sa responsabilité. De nombreux témoins l'ont vu dans ces deux endroits.
« Et de samedi à lundi, » intervint Alec, « il était derrière les barreaux, comme vous le savez, Ralph. »
Toutes sortes de personnes peuvent témoigner des faits et gestes de Terry, presque à chaque instant, concéda Ralph. C'est le cœur du problème depuis le début. Mais oublions cela un instant. J'aimerais vous montrer quelque chose. Yunel l'a déjà vu. Il a visionné les images ce matin. Mais je lui ai posé une question avant qu'il les regarde. Et maintenant je vais vous la poser à vous aussi. L'un de vous deux a-t-il remarqué un homme affreusement défiguré devant le tribunal? Il portait quelque chose sur la tête, mais je ne vous dirai pas quoi tout de suite. Alors ?
Howie répondit par la négative. Toute son attention était fixée sur son client et l'épouse de celui-ci.
Alec Pelé, en revanche ?
Oui, je l'ai vu. Il semblait avoir été brûlé dans un incendie. Quant à cette chose qu'il portait sur la tête...
Il s'interrompit, les yeux écarquillés.
Allez-y.
L'encouragea Yunel de son salon à Cap City.
« Crachez le morceau, vous vous sentirez mieux. »
Alex massait les tempes comme s'il souffrait d'une migraine.
« Tout d'abord, j'ai cru qu'il s'agissait d'un bandana ou d'un foulard quelconque. Je me suis dit que ses cheveux avaient brûlé et comme il ne pouvait plus repousser, il voulait protéger son crâne du soleil. Mais maintenant, je me dis que c'était peut-être une chemise, celle qui n'a pas été retrouvée dans la grange. » « C'est ce que vous pensez? Ce serait la chemise que portait Terry sur les images enregistrées à la gare. »«
Vous avez gagné la queue du Mickey, »
dit Yunel. Howie regardait Ralph en fronçant les sourcils.
« Vous essayez encore de faire porter le chapeau à Terry ?»
Gianni prit la parole pour la première fois.
« Il essaie juste de découvrir la vérité, ce qui n'est sans doute pas une très bonne idée, si vous voulez mon avis.
Regardez ça, Alec. » poursuivit Ralph, et montrez-moi l'homme au visage brûlé. Il fit défiler les images filmées par Channel 81, puis celles de Fox, et enfin, à la demande d'Alec, le nez quasiment collé à l'écran de l'ordinateur, celle de Channel 81 de nouveau. Alec se renversa contre le dossier de sa chaise.
« Il n'y est pas. C'est impossible. »
Yunel intervint.
Il se trouvait à côté du type qui agitait son chapeau de cow-boy, n'est-ce pas?
Oui, je crois bien. Et un peu plus haut que la journaliste blonde qui a reçu un coup de pancarte sur la caboche. Je vois bien le type au chapeau de cow-boy et celui qui brandit sa pancarte, mais pas le brûlé. Comment est-ce possible?
Personne ne répondit. Howie dit
« Revenons-en aux empreintes une minute. Combien y avait-il d'empreintes différentes à l'intérieur de la camionnette, Yunel ?»«
Une demi-douzaine d'après les gars du labo. »
Howie émit un grognement.
« Ne vous énervez pas. Nous avons réussi à en identifier au moins quatre. Celle du fermier de l'État de New York, à qui appartenait la camionnette, celle de son fils aîné qui la conduisait parfois, celle du gamin qui l'a volée, et celle de Terry Maitland. Ne reste qu'un ensemble d'empreintes bien nettes que nous n'avons pas identifiées. Elles appartiennent peut-être à un ami du fermier ou à ses plus jeunes fils qui jouent à l'intérieur de la camionnette. Et les empreintes floues.
Les mêmes que celles retrouvées sur la boucle de ceinture.
Probablement, mais impossible de l'affirmer. Elles présentent quelques crêtes visibles, mais pas de quoi établir une identification formelle, recevable par un tribunal.
Je vois. Alors, permettez-moi de vous poser une question à vous trois, messieurs. Se peut-il qu'un homme grièvement brûlé aux mains et au visage laisse ce type d'empreintes, si floues qu'on ne peut pas les identifier?
Oui,
répondirent en chœur Yunel et Alec, malgré le très léger décalage dû à la connexion informatique.
Le problème, ajouta Ralph, c'est que le brûlé présent devant le tribunal avait les mains tatouées. Si ces empreintes digitales ont été détruites par les flammes, les tatouages devraient l'être aussi, non?
Howie secoua la tête.
Pas nécessairement. Si je prends feu, il se peut que j'essaie d'éteindre les flammes, mais dans ce cas, j'utilise mes paumes.
Il joignit le geste à la parole en frappant son torse imposant du plat de la main. S'ensuivit un moment de silence. Puis, d'une voix presque inaudible, Alec Pellé dit
« Le type au visage brûlé était bien là. Je suis prêt à le jurer sur une pile de bibles. »
L'unité scientifique de la police d'État va analyser la substance qui a noirci le foin dans la grange, dit Ralph. Mais que peut-on faire en attendant?
Je suis ouvert à toutes les suggestions. Faisons marche arrière direction Dayton,
proposa Alec.
On sait que Maitland est allé là-bas, et on sait que la camionnette s'y trouvait aussi. Alors, peut-être qu'on y dénichera quelques réponses également. Je ne peux pas m'y rendre personnellement, j'ai trop de fer au feu pour le moment. Mais je connais quelqu'un de très bien. Laissez-moi juste le temps de l'appeler pour savoir s'il est disponible.
Ils en restèrent là.